Beaucoup de préparatifs, n'est-ce pas, avant de commencer, mais alors on est prêt. Alors, bon matin à vous tous, bon dimanche, content d'être avec vous ce matin, content d'être ici dans la maison de notre grand Dieu et content de connaître aussi la personne de notre Dieu. Et si vous êtes ici pour la première fois, mais je vous souhaite le plus cordial des bienvenus. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment, et ma prière, c'est que vous reviendrez encore. Alors ce matin, nous allons débuter une toute nouvelle série. Vous pouvez voir le titre ici sur l'écran, « Bâtissant notre arbre généalogique ». C'est le premier de 4 messages qui fait partie justement de cette série. Et vous savez, qui que nous sommes, nous appartenons tous à un arbre quelque part. Il y a l'arbre des Bridgman, il y a l'arbre des Cadottes ici, là-bas, il y a l'arbre des Paquins. En tout cas, nous faisons partie d'un arbre quelconque. Et on n'a pas eu de contrôle justement sur cet arbre. On n'a pas choisi nos parents, ni nos grands-parents, ni... Mais nous pouvons quand même, aujourd'hui et dès aujourd'hui, commencer, si nous n'avons pas déjà commencé, à avoir un impact sur cette génération présente et la génération future qui feront partie de notre arbre. C'est spécial. Alors, même si on ne peut pas changer de passé, comme j'ai dit, le présent et le futur, on pourrait avoir un impact là-dessus. Alors, ce message ce matin s'adresse principalement aux célibataires, jeunes adultes. Vous allez voir pourquoi tantôt. Mais il y a aussi une autre application. Si vous êtes parents, ne fermez pas vos oreilles, mais il y a des applications pour vous. Si vous êtes grands-parents aussi, il y a des choses que vous pouvez mettre en pratique. Si vous êtes oncle, si vous êtes ma tante, et j'en passe, il y a quelque chose ici ce matin pour tout le monde. Comme j'ai dit, nous faisons tous partie d'un arbre généalogique quelconque, et nous pouvons tous y mettre la main pour la construction. Alors, le titre du message ce matin, comme vous pouvez le dire, avant de dire « Oui, je le veux », et vous savez de quoi je parle, ça c'est le moment... glorieux, important dans la vie d'une jeune couple, d'un couple, qu'il soit jeune ou non, mais d'un couple, qui sont là devant justement le ministre du culte et qui, à un moment donné, va prononcer ces paroles, « Oui, je le veux ». Et à mon avis, ça, c'est le choix, la décision la plus importante après avoir dit à Jésus, oui, je le veux. On l'a chanté ce matin, hein, je te donne mon cœur. Et si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore fait ce pas, mais avant même de penser à cela, c'est important, mais il y a un autre qui est plus important, c'est de dire oui, je le veux à Jésus. Alors, ce matin, où commencer? Où commencer? Est-ce qu'il existe une formule magique pour trouver l'âme sœur? Parce que c'est ce qu'on va parler ce matin. Devrions-nous consulter eharmony.com? Ou est-ce qu'on va nous faire des matchs basés sur justement notre personnalité, nos apparences, nos passe-temps, etc. Est-ce que nous allons dire que cette personne devant moi, et si c'est une fille, cette personne est celui que le Seigneur, celle que le Seigneur a choisi pour moi, parce que tu as rencontré l'homme de tes rêves? Parce qu'il t'a dit, je sais pourquoi Salomon a eu 700 femmes, parce qu'il ne t'avait jamais rencontré. » Mais j'aimerais ce matin vous suggérer une meilleure manière. Et pour cela, j'aimerais vous suggérer, conseiller fortement, exhorter, avance justement dans cette démarche pour trouver l'âme sœur, c'est de consulter le designer. Vous savez, si vous venez me voir et vous me demandez de vous construire une maison, je ne suis pas expert, mais je pense que ça, c'est le produit peut-être que vous aurez. Je bricole un peu, puis vous allez voir justement jusqu'où vont mes compétences. Mais si vous vouliez avoir une maison de qualité, on ferait venir le spécialiste. Je ne sais pas si quelques-uns de vous regardez le poste HGTV en anglais, mais il y a ce monsieur Brian Beaumier qui est le spécialiste. Et il est capable justement de faire de très belles choses, et c'est là que vous aurez comme produit. Alors, dans cette décision si importante, dans ce choix tellement primordial, je pense que aussi vous allez être d'accord avec moi que ce serait important de consulter le designer. Et vous savez de qui je parle? Le designer, c'est notre grand Dieu. J'aimerais vous lire ici quelques textes. L'Éternel dit, et nous sommes dans le contexte justement de la création, et l'Éternel a créé les cieux et la terre, et maintenant le sixième jour, il a créé l'homme et ainsi de suite. Et voici ce que Dieu dit justement à propos de l'homme et la femme, et justement cette union, un couple et ainsi de suite. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma une femme et il l'amena vers l'homme. Et dans Genèse 1, 27 et 28, nous lisons ceci. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et le mariage et la famille, ce sont les inventions de Dieu et c'est très sage, c'est extrêmement sage. Si vous êtes en train de chercher une âme sœur, c'est de l'impliquer dans le processus. Très, très, très important. Vous savez aussi, pas seulement impliquer Dieu dans le processus. Dans Genèse chapitre 24, vous pouvez y tourner pour quelques instants, si vous avez vos Bibles avec vous ce matin. J'aimerais juste sortir quelques principes de ce chapitre, Genèse chapitre 24. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais dans Genèse chapitre 24, le contexte, c'est Abraham, maintenant qui est vieux, et il a une fils qui s'appelle Isaac, et il cherche maintenant une épouse pour son fils. Et le texte nous dit, Genèse 24, verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. » Ça, c'était l'habitude à l'époque. « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canaanites, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie et prendre une femme pour mon fils Isaac. » Et à l'époque et dans cette culture, c'était très, très général, ça existait que les parents, justement, choisissaient, et ça existe encore aujourd'hui dans certaines cultures et dans certains pays, mais les parents choisissaient le futur conjoint, pour justement un fils ou une fille. Et je vous demanderais, vous qui êtes célibataire ce matin, combien de vous aimeriez que vos parents choisissent votre futur pour vous ce matin? Je ne suis pas certain que vous allez dire, ah, non, 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 ça c'est d'autres choses. Mais il y a une manière quand même de s'impliquer dans le processus parce que Abraham dans Genèse 24, il s'implique dans le processus. Et il va envoyer son serviteur dans son pays, dans sa patrie, justement pour chercher une femme. Et si on avait lu le texte un peu plus loin, on voit que le serviteur, il va consulter. Il va consulter l'Éternel, il s'en va, il arrive à un puits. Puis là, il prie, il a demandé au Seigneur de montrer clairement la femme que l'Éternel avait destinée à Isaac, qui était le fils d'Abraham. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme cela. On n'envoie pas justement des serviteurs. Mais en tant que parent, il y a des choses que vous pouvez envoyer. Et c'est des prières. Ce sont des prières. Vous pouvez s'impliquer dans ce processus de bâtir votre arbre généalogique, justement en adressant des prières à Dieu en faveur justement de vos enfants. Et demander justement que le Seigneur prépare un homme de Dieu, une femme de Dieu pour justement vos enfants. Si vous êtes grands-parents, comme je vous ai dit, ce message s'applique à nous tous parce que vous êtes grands-parents, vous avez des petits-enfants, vous pouvez aussi envoyer des prières à Dieu pour vos petites-fils et vos petites-filles, demander au Seigneur justement de préparer un homme de Dieu, une femme de Dieu pour justement vos petits-enfants. Vous êtes oncle, vous êtes tante, vous avez des nièces, vous avez des neveux. Nous pouvons tous nous impliquer dans ce processus. Où est-ce qu'on applique justement le designer? Et ça, c'est vraiment important. C'est une chose que je pense que c'est primordial dans ce processus. Vous savez, dans Ecclésiaste 3, 4, verset 9 à 12, c'est un texte qui est cité souvent lors des mariages. Deux valent mieux qu'un. On parle justement du fait que vous avez un couple qui est formé à cause avec un homme et une femme. Et on donne justement un des avantages, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Et ceux qui sont mariés, vous savez justement, il y a l'entraide qui existe dans le couple, qui est très important et qui est très précieux. Et la corde à trois fils ne se rompt facilement. Et selon la plupart des commentateurs, cette corde à trois fils, le troisième fil là, fait référence à Dieu. Et quand le Seigneur est dans un couple, combien c'est important d'avoir le Seigneur qui est là, qui donne de la force, qui donne de la solidité. Et j'ai pris l'image de quelqu'un qui justement est en train d'escalader. Parce que dans un couple, on peut justement atteindre des hauteurs, d'avoir justement une bonne relation. Voler, si vous voulez, ensemble. Mais soyez certains que vous êtes bien attachés. Et soyez certains que vous avez Dieu dans votre fil. Parce que ça, c'est ce qui donne justement la force et la solidité. Alors, dans un premier temps, consultez le designer quand on cherche l'arbre sœur. Deuxièmement, non seulement consultez le designer, mais cherchez sa direction. Cherchez sa direction. Et pour vous, les jeunes ce matin qui vont au cégep, université, si je vous poserai une question, et là vous avez deux images, vous avez Flash McQueen et vous avez Matter. Si je vous demandais, vous allez vous rendre, vous offre un moyen de transport, ok? Lequel des deux vous allez choisir justement pour vous déplacer, pour vous rendre au cégep ou à l'université? Lequel vous choisirez-vous justement comme votre moyen de transport? Vous êtes derrière le volant de lesquels de ces deux ici? Et je pense que la réponse serait évidente, ce serait on va choisir Flash McQueen. Et pourquoi? Parce que on va apparaître devant les autres super cool. On va peut-être impressionner les autres. On va faire aussi que les autres deviennent jaloux de nous autres. Vous savez, c'est tentant de prendre le premier choix. Mais deux questions à vous poser. Est-ce que il ou elle, maintenant on fait le parallèle avec un choix d'un âme sœur, Est-ce qu'il ou elle me fait paraître mieux, comme si avec Flash McQueen, j'arrive là avec, dans cette bolide rouge, puis wow! Ou est-ce qu'il ou elle me rend meilleur? Ça, c'est la question à laquelle il faut réfléchir. Et si on veut vraiment ne pas se tromper dans ce domaine, chercher justement la direction, parce que, comme on dit souvent, si on se fie sur les apparences extérieures, ça peut être aussi trompant, n'est-ce pas? Alors, on consulte la direction. Et il y a un beau texte, j'aime ce texte ici, et c'est un texte que nous pouvons tous mémoriser, pratiquer, mettre en application, parce que, pas seulement dans le domaine du mariage, mais dans tous les domaines de notre vie, où est-ce que Dieu nous promet justement de nous donner cette direction. Il a dit ceci, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. » J'aurai le regard sur toi. Vous voyez comment est-ce que Dieu nous donne une belle promesse quand on cherche ta direction et a dit, je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je vais te donner des conseils et j'aurai mon regard sur toi. Et même si une relation 3-16 n'existe pas dans la parole de Dieu, des bonnes relations entre des âmes sœurs. Dieu nous donne de grandes lignes pour bâtir de bonnes relations en vue d'un éventuel mariage. Ça, c'est la promesse de Dieu. Comme il a dit, j'aurai le regard sur toi. Alors, comment procéder? Quelques principes de base. Tout d'abord, si vous avez cette idée de chercher cet âme sœur, et comme je dis, le texte, avant de dire « oui, je le veux », ça c'est le moment précis, mais avant d'arriver là, chercher la direction de Dieu, et Dieu va nous donner quelques spécifications. Citoyenneté. Il ou elle vient du ciel. Et pas dans le sens de ce jeune homme qui a dit à sa blonde, cela a dû faire mal quand tu es tombé du ciel. Et à sa surprise, elle a giflé. Il a dit, oh, ça fait mal. Pourquoi tu m'as giflé? Elle a dit, Je ne m'appelle pas Satan. Alors, vous voyez combien c'est important justement de réfléchir à cela. La Bible nous dit que nous qui sommes croyants, nous sommes concitoyens des cieux. Et Abraham, quand il cherchait justement une épouse pour son fils Isaac, trouvait une femme qui venait de sa patrie. Et l'application ici, c'est que cherche quelqu'un aussi qui vient de ta patrie, qui vient du ciel. Et dans sa sagesse, Dieu sait que quand il y a justement cette mélange, toutes les implications, toutes les complications, toutes les frustrations que de telles unions puissent se produire. Et c'est ça, c'est important. Je ne voudrais pas cacher justement l'importance de ce point. Est-ce que la personne avec qui tu vas dire « oui, je le veux et je vais passer le restant de ma vie », est-ce qu'elle aussi vient du ciel? Ça, c'est les spécifications. Et la Bible nous dit ici, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dieu, dans sa grâce, il peut faire des choses extraordinaires. Je nie pas cela, mais le conseil ici ce matin pour un enfant de Dieu, quelqu'un qui est au Seigneur, qui cherche une âme sœur, la parole de Dieu est claire qu'il éviter bien des casse-têtes, bien des problématiques quand nous avons justement ce type de arrangement où est-ce qu'on est attelé. L'idée ici, c'est comme deux animaux avec le joug qui est en train justement de labourer un champ. Et vous avez ce qu'on appelle un attelage disparate. Vous avez un qui est croyant, un qui est non-croyant. Et Dieu nous avertit que de tels arrangements puissent produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Je ne peux pas dire que Dieu n'est pas gracieux, puis il ne peut pas faire des choses qui peuvent nous surprendre, mais la parole pour moi est assez claire. Alors, dans un premier temps, chercher sa direction. Deuxièmement, chercher sa croissance. Il ou elle est vivante. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est justement un beau texte qui nous parle de cette vie qui devrait habiter dans cette personne. Et tu cherches une âme sœur, mais cherchez des signes vitaux chez cette personne. Est-ce qu'il y a justement cette lecture de la parole? Est-ce que la personne s'attache à la parole de Dieu? Est-ce que la personne a une vie de prière? Et c'est plus que juste dire, Seigneur, bénis cette nourriture. Amen. Ça, c'est pas suffisant. Vous savez, ça, c'est tellement important que c'est un point capital si on va avoir cette unité dans un couple, si on va avoir justement cette croissance ensemble, tellement important qu'on n'est pas dans un attelage disparate où est-ce qu'on a comme une personne avec un autre et il n'y a pas d'intérêt commun entre les deux. Alors, quelques signes vitaux, comme je dis, lecture de la parole, vie de prière, tellement important. Je trouve ça intéressant. Chercher sa direction. If he doesn't fall on his knees in prayer, he doesn't deserve to fall on one knee with a ring. S'il ne se met pas à genoux, il n'est pas en prière, il n'est pas digne de se mettre à genoux avec une alliance. Et je pense que le Seigneur aimerait nous éviter de beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques dans ce type de relation. La parole est claire. Le Seigneur, il sait, il est sage. Et je parle ici de sa grâce peut couvrir beaucoup de choses, mais il nous donne justement des directives claires pour justement cette vie à deux qui est tellement important, qui est tellement, à ses yeux, pour éviter justement beaucoup de problématiques. La parole de Dieu est claire, elle nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avertissements et on ne peut pas mettre ces choses à côté et ne pas récolter ce qu'on sème. Alors, je ne veux pas justement cacher la vérité de Dieu devant vous ce matin. C'est important justement, quand on parle d'une vie à deux, quand on parle justement d'avoir cette intimité l'un avec l'autre, faire des projets ensemble, marcher d'un pas commun, tellement, tellement important ici, c'est d'avoir quelqu'un. Et parce que c'est pas la vie, hein. Et le divorce aujourd'hui, là, c'est tellement répandu. C'est des choses qu'il faut prendre à sérieux, puis s'arrêter, puis de réfléchir, puis crier au Seigneur même, d'avancer tranquillement dans ces directions. On va chercher sa direction extrêmement importante. Alors, chercher une direction en ce qui concerne aussi son caractère. Il ou elle ressemble au moins un peu à Jésus-Christ. Vous savez, Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Alors, est-ce que chez cette âme sœur que tu côtoies, est-ce qu'il y a l'humilité, est-ce qu'il y a la douceur, est-ce qu'il y a la générosité, est-ce qu'il y a la compassion, etc., etc., etc. Ce sont des choses pratiques que je vous donne ce matin. On ne peut pas en passer à côté. La règle d'or, heureux L'homme qui est dirigé par le Saint-Esprit a trouvé une compagne pour être à ses côtés afin de mettre en valeur ses forces et de pallier à ses faiblesses. Et ça, c'est toute une bénédiction. Ceux et celles qui sont mariés ici, vous pouvez justement en témoigner. Quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui est là pour justement encourager, pour écouter, pour soutenir, pour prier ensemble, pour faire face à la vie ensemble, pour faire des projets ensemble, pour rêver ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible dit aussi tout ce que tu veux, parce que la Bible, mais c'est ce que j'ai mis comme la guédard, tout ce que tu veux que l'autre soit pour toi, soit de même aussi pour elle et pour lui. C'est tellement, tellement important. Des choses pratiques, justement, dans cette démarche où est-ce qu'on cherche cet âme sœur, cette décision qui est tellement importante dans une vie. Alors, troisième chose avant de dire « oui, je le veux », consulter le designer, chercher sa direction. Le Seigneur est gracieux, il veut dans sa parole nous diriger, mais aussi connaître la différence. Et une grosse différence entre s'amouracher d'eux et aussi d'aimer. Et quelqu'un a dit « tu peux penser que tu es en amour parce que tu ne peux pas penser à personne d'autre ». Tu passes ton temps là, et puis tu rêves, et tu vois cette personne de tes rêves, et tu sens son parfum, puis en tout cas, tu pouvais penser toutes les choses. Ton cœur palpite quand tu la vois, tu peux passer des heures au téléphone ou à texter, c'est le coup de foudre, les feux d'artifice, etc., etc., etc. Mais fais attention, parce que, je vous donne l'explication ici, pour s'amouracher, éprouver pour quelqu'un un amour soudain et passager. Le feu d'artifice sont excitants, mais ils ne durent pas longtemps, et de plus, les étincelles peuvent brûler. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cette distinction entre s'amouracher, le vrai amour, qui est plus que les sentiments? Et comment est-ce qu'on peut vraiment saisir cette définition et être conscient que la personne qui est devant moi, mais c'est quelqu'un que vraiment que j'aime. Et j'espère que vous serez comme plus dans votre esprit là, que l'amour est plus comme les enfants du primaire, où est-ce qu'on va être demandé de donner justement leur définition de l'amour. Et il y a une petite fille qui a répondu, j'ai trouvé ça intéressant. L'amour, c'est quand une fille met du parfum. C'est quand le gars met de la lotion après rasage. Ils sortent ensemble et ils se sentent l'un l'autre. Un autre a dit, ça c'est les enfants du primaire, là, fait qu'on peut comprendre la réaction. Un autre a dit, quand tu aimes quelqu'un, tes paupières vont cling, 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 et on sort des petites étoiles. Et celle-ci, je l'aime vraiment, une petite fille, comment est-ce que tu sais, c'est quoi le vrai amour? Elle dit, je sais que ma sœur m'aime parce qu'elle me donne tout son vieux linge, et après ça, il faut qu'elle aille en acheter du neuf. Mais La Bible nous donne justement une meilleure définition de cela. Dans Philippiens 1, 9, 10, nous disons ceci, que votre amour grandisse de plus en plus et qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite pour que vous soyez capable de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez pur et irréprochable. Alors, Paul parle d'un type d'amour qui sait ce qui est mieux dans une relation et qui conduit vers la pureté aux yeux de Dieu. C'est pas des sentiments, c'est pas le coup de foudre, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus profond de cela. C'est quelque chose qui est enrichi, comme il a dit, de la connaissance et une vraie compréhension. Et on est capable, justement, d'exercer un jugement et puis de discerner ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alors, j'ai mis ensemble ici la différence entre quelqu'un qui est, justement, Samourachet 2 et aussi d'aimer. Il y a dans le contexte de Samourachet 2 quelqu'un, il y a de l'affection, oui bien sûr, il y a un penchant pour la personne. A lieu soudainement, on parle d'un coup de foudre, et je vois la personne, puis oh, là je tombe par terre quasiment. On est conscient de quelques caractéristiques chez l'autre. Souvent c'est égocentrique, comme je dis qu'avec Flash McQueen, j'ai quelqu'un, une blonde, un chum, et là, wow, ça me fait paraître bien parce que c'est, ça me valorise. Il y a aussi de l'attraction physique qui est très forte et même des fois une priorité. Mais quand on compare ce type, justement, qu'on appelle entre guillemets « amour » avec le vrai amour, c'est un lien solide entre deux êtres. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Pour ceux et celles ici qui sont mariés, vous pouvez témoigner de cela. On dit « oui, je le veux » au début de notre vie chrétienne, notre mariage, mais ça prend toute une vie. Ça grandit peu à peu et ça prend du temps vraiment avancer dedans. Quand on s'amourache de quelqu'un, on connaît à peine la personne. Mais la vraie amour, comme je dis, ça prend du temps, mais chemin faisant et avec les années, tu vas justement venir à connaître l'autre personne, l'âme sœur, de plus en plus en profondeur. Altruiste, ça veut dire simplement le vrai amour, un amour comme le Seigneur Jésus-Christ nous a démontré, n'est pas centré sur, et pas égocentrique, mais aussi centré sur l'autre. Et l'attraction physique est importante, oui, bien sûr, mais c'est pas une priorité, c'est pas une priorité. Vous êtes capable de regarder l'autre et de voir la beauté de son cœur. Même si la beauté physique est moins apparente. Alors ça c'est vraiment important de connaître cette différence. Finalement, confirmer la décision. Là vous avez ces trois étapes ici avant de dire je le veux. Il y a une dernière étape qui est importante, c'est de confirmer la décision. Là, vous avez rencontré quelqu'un et vous pensez que c'est l'âme sœur. Vous allez avoir établi une relation, vous voulez justement passer le restant de votre vie ensemble. Qu'est-ce qui est important? On part ici des périodes de fréquentation et j'ai écrit, c'est une période de confirmation et non pas d'exploration, et surtout pas sur le côté physique. Très important d'avoir cette confirmation que cette personne-là est la personne avec laquelle tu veux passer le restant de tes jours. Et pourquoi? Parce que vous savez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les divorces aujourd'hui, là, j'ai parlé avec quelqu'un hier qui m'a dit, les statistiques dans le monde, 50% à peu près. Et c'est pas non plus mieux chez les chrétiens. Autrefois, il y a 10, peut-être 30, 40 années, mais aujourd'hui aussi, la même problématique est là. Alors, que faire? Ne précipite pas les choses, ne brûle pas les étapes. Et ce matin, j'aimerais vous laisser avec quelques exhortations, conseils. Phase 1, construire une bonne amitié. Ça, c'est la clé. D'être de bons amis avant tout. Tellement précieuse dans toute relation, la personne avec qui tu décides de passer le restant de ta vie, un bon ami, une bonne amie, quelqu'un avec lequel tu peux rire ensemble, tu peux pleurer ensemble, tu peux faire des projets ensemble. Ça, ça n'a pas de prix. Un ami. Et comment faire cela? Comment être amis l'un de l'autre? Mais vous savez, le Seigneur nous a donné quelque chose d'extraordinaire. C'est la parole, la communication. Construire une bonne amitié basée sur la communication. On voit ici dans Exode 33, 11, l'Éternel et Moïse avaient cette relation d'amis. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et je sais que pour nous, les messieurs, c'est pas évident, ça. C'est pas évident. Je pense à ce président des États-Unis. Il est allé à une réunion évangélique. Puis là, quand il est revenu à la maison, sa femme voulait justement avoir des nouvelles, puis ça. Puis il a dit, c'était quoi le sujet de la prêche ce soir? Et l'homme a répondu, il a parlé du péché. Mais là, c'était pas suffisant pour elle. Vous savez, les femmes, on veut avoir, en savoir plus. Alors, elle a dit, mais oui, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il était contre. Monsieur, je parle à moi-même, le blabla, là, la communication, c'est très important. On nous dit que les hommes, en moyen, disent 7000 mots. Les femmes, 21000, trois fois plus. Alors, dans une couple, et si vous pensez établir un couple, mais établir une bonne amitié basée sur la communication. Apprenez à jaser, à parler, surtout à communiquer. Deuxièmement, il y a aussi construire une bonne amitié basée sur la confiance. Tellement importante dans cette période où est-ce que vous êtes en train de confirmer que le Seigneur vous a mis ensemble l'un pour l'autre. Cette amitié que vous êtes en train de construire, vous le construisez par la communication, mais aussi vous construisez cela par l'amitié. David a pu dire ceci dans Psaume 41:10, « Mon meilleur ami en qui j'avais confiance. » Tellement il était confiant, il pouvait échanger, parler, se confier l'un dans l'autre, que pour David, c'était son meilleur ami. Deux choses importantes, construire une bonne relation, la communication et la confiance essentielle pour une bonne relation. Et deuxième chose, dans cette phase où est-ce qu'on est en train justement de confirmer la décision, la phase 1, construire une bonne amitié, mais construire aussi une bonne unité. Et ça aussi, cela n'a pas de prix. Je suis certain que vous tous ici ce matin, ceux et celles qui ont déjà dit oui, même ceux qui sont déjà mariés, ceux qui veulent entretenir aussi des relations avec une âme sœur, nous aimerions tous ce matin avoir des relations, n'est-ce pas, les uns avec les autres, qui honorent le Seigneur, qui tissent des liens, et d'éviter surtout tous les dégâts que les relations brisées causent. Et vous savez de quoi je parle. Combien c'est triste quand on voit justement qu'il n'y a pas d'unité dans le couple. Alors comment est-ce que, pour ceux que, justement qui projettent, justement, comme je dis, de former un couple avant de dire « oui, je le veux », on est dans cette phase de fréquentation, de voir l'autre, comment est-ce qu'on peut construire une bonne unité? Alors, dans un premier temps, la chose importante, c'est de focaliser sur l'aspect. Je vais vous donner trois trucs et aussi dans le bon ordre. Construire une bonne unité, venir ensemble spirituellement, ça, c'est très important. Et si vous connaissez, bien sûr, selon la parole de Dieu, vous les deux connaissent le Seigneur. Mais quelle belle occasion, n'est-ce pas, de vraiment solidifier cette décision et de confirmer cette décision en adorant le Seigneur. De vraiment participer dans les activités spirituelles. On va prioriser justement cet aspect de cette relation, cet aspect spirituel. Alors, il y en a plusieurs façons de le faire. Adorer ensemble. Étudier la parole de Dieu ensemble, prier ensemble, toutes ces choses-là vont rapprocher l'un l'autre, mais dans le contexte spirituel. Et ce que tu es en train de semer ici, c'est des choses qui vont porter fruit plus tard, dans le couple, après le mariage. Alors, dans un premier temps, une bonne unité, venir ensemble spirituellement. Deuxièmement, venir ensemble émotionnellement, servir ensemble. Il y a des bonnes occasions, enseigner à l'école du dimanche ensemble. L'été, les camps, il y a toujours des demandes pour les moniteurs, des monitrices. Quelles belles occasions pour deux personnes qui se fréquentent, justement, de bâtir cette unité ensemble. Et comme j'ai écrit ici, faire des activités ensemble génère de bons sentiments et solidifie les liens entre individus. Et l'apôtre Paul, il va écrire aux Philippiens en le disant, il parle justement de ce travail d'évangélisation. Vous tenez ferme, mais regarde ce qui arrive dans un même esprit, dans un même cœur pour la foi de l'Évangile. Et là, vous avez des individus qui travaillent ensemble, il y avait un projet commun, ils servaient le Seigneur ensemble, mais ils aussi étaient soudés ensemble. Et troisièmement, venir ensemble physiquement. Ce serait naïf de penser que quand deux personnes se fréquentent, qu'il n'y a pas justement le côté physique. Mais il y a des limites à établir et à ne pas compromettre. Et là, j'ai écrit ici, réserver l'intimité sexuelle pour le mariage. Alors, chaque couple va décider et vous avez, quelqu'un a bien dit, est-ce que ce que vous allez faire, est-ce que vous aurez honte de faire cela devant vos amis, devant le public? Si vous savez c'est où jusqu'on peut aller. Mais la parole de Dieu nous donne justement des lignes claires. Et surtout pour l'intimité sexuelle, le texte est clair dans 1 Corinthiens. Fuyez l'immoralité sexuelle. Celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Et voici une ordre à respecter. Vous avez une unité dans ce couple qui veut se former spirituellement tout d'abord, émotionnellement et ensuite le côté physique. Et quand cet ordre est inversé, vous savez, ça génère beaucoup de problématiques. Alors voilà, on ne parle de deux personnes, je parie justement avant de dire oui, je le veux. Anna et David. Et le jour de leur mariage était finalement arrivé. Ils avaient planifié pendant des mois et des mois. Et maintenant, dans une petite église avec parents et amis, Anna était prête à prononcer ses vœux avec son fiancé, David. David l'a pris doucement par la main et ensemble, ils se sont avancés vers l'autel. Mais pendant que le ministre les dirigeait à travers la cérémonie, l'impensable est arrivé. Une fille s'est levée, s'est approché du couple et a pris la main libre de David. Une autre fille aussi s'est levée. Elle s'est mise à côté de la première, suivie d'une autre et une autre. Et bientôt, il y avait six filles à côté de David. Anna, les lèvres tremblantes et avec de grosses larmes aux yeux, a chuchoté à David. Est-ce une mauvaise blague? Je suis désolé, Anna, David a dit, regardant au plancher. Mais qui sont ces filles? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ce sont des filles de mon passé, Anna. Elle ne veut plus rien dire pour moi maintenant. Mais j'ai donné une partie de mon corps, de mon cœur à chacune d'elles. Oh, je pensais que ton cœur m'appartenait, Anna. A dit, oui, il est à toi. Tout ce qui reste est à toi. Une larme a coulé sur la joue d'Anna et alors elle s'est réveillée avec un sentiment d'avoir été trahie. Mais en réfléchissant, elle se demandait combien de garçons seraient à ses côtés devant l'autel. C'est sûr que c'est une histoire fictive, mais si vous êtes célibataire et vous êtes en train, justement, dans les relations et vous êtes en train de penser au mariage, mais qu'il soit par la vôtre lors de votre mariage. Dieu, il y a quelque chose de mieux pour toi. Alors, peut-être ce matin, vous pouvez me dire, mais il est trop tard pour moi. Je n'ai rien respecté de ce que tu as dit. Je n'ai pas fait ça avant de me marier parce que le texte, c'est avant de dire « je le veux ». et je suis dans une relation, qu'est-ce que je devrais faire? Mais vous savez, nous avons un Dieu de grâce. J'aimerais vous encourager ce matin. Nous avons un Dieu de grâce, un Dieu qui est miséricordieux. Et j'ai parlé justement, vous ne voulez pas vous donner l'impression que je mets l'emphase sur de trouver la bonne personne. Ça, c'est très, très important. Mais dans tout couple, quand quelqu'un a dit, c'est aussi d'être la bonne personne. Tellement important. Alors, la semaine prochaine, notre frère Denis va nous justement parler de cela dans le mariage maintenant. Deuxième message dans cette série. Un duel ou un duo? Les fondations d'un bon mariage. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les instructions que tu nous donnes. Tu es un Dieu qui est sage. Ô Seigneur, tu connais nos cœurs, nos faiblesses, nos luttes, nos chutes. Merci d'être le Dieu qui nous relève, qui nous restaure, qui guérit, qui panse les blessures. Et ce matin, nous tournons vers toi. Seigneur, tu nous as donné des directives dans ta parole, que tu nous donnes des conseils. Ma prière pour ceux et celles qui sont ici, qui envisagent justement entrer dans cette voie de mariage, une institution tellement importante. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse leur sensibiliser, parler à leur cœur, les convaincre de ta parole qui nous démontre clairement ce que tu réserves pour tes enfants. Parce que tu es un Dieu qui voudrait les préserver de tant de difficultés, tant de maux, Seigneur. Mais tu es un Dieu aussi qui est miséricordieux et tu es gracieux. Alors, s'il y a quelques-uns ce matin parmi nous qui souffrent à cause des erreurs, des blessures, quoi que ce soit, Seigneur, mets ta bonne main de peur, de compassion sur ces personnes. Tu es capable de guérir des cœurs, Seigneur. Tu es capable de panser les blessures. Tu es capable de relever, de restaurer, Seigneur. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Et ce matin, nous les recommandons à ta grâce. Et pour nous qui ont déjà dit oui, Seigneur, nous pouvons te demander ce matin que même ce que nous avons vu ce matin, nous pouvons continuer à le mettre en pratique. Seigneur, que dans notre couple, oui, qu'il y ait le côté spirituel, que nous cherchions ensemble de t'honorer, de t'adorer, de t'élever, que nous puissions aussi te servir ensemble, Seigneur. Et merci aussi pour le plaisir que tu donnes à un homme et une femme d'être un seul chair. Seigneur, nous voulons encore s'en remettre à toi. Dans nos faiblesses, nous crions à toi. Bâtis ton Église, encourage ton peuple, fortifie tes enfants. Et surtout, Seigneur, préserve-nous du mal et du malin. Alors maintenant, sépare-nous avec ta bénédiction. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.